Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pour celles et ceux qui écoutent cet épisode au moment de sa sortie, c'est la rentrée et je suis giga heureux. Heureux de continuer les enregistrements de Flamboyant. Merci à ceux qui laissent 5 étoiles sur Apple Podcast, à ceux qui le recommandent et qui en parlent sur les réseaux sociaux et dans la presse. Merci à tous les artistes qui acceptent d'y participer et de venir s'y raconter. Pour cette reprise, je suis trop content de vous partager ma discussion avec Arthur. Oui, on a le même prénom. Vous l'avez peut-être déjà aperçu ici ou là, en vrai ou sur les réseaux sociaux, sous le nom de Mini Majesté. Bonjour Arthur.
Bonjour Arthur.
Ça commence très bien ce podcast. Comment vas-tu ?
Écoute, ça va très bien après une dure journée de labeur.
Tu vas en parler un peu, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, alors en Arthur.
En Arthur.
Donc je m'appelle Arthur, je viens d'avoir 29 ans tout juste en
bon
juillet. Merci beaucoup. Dans la vie de tous les jours en civil, je suis ingénieur en colorimétrie dans une boîte qui aime pas trop que je prononce son nom.
Ok.
Valter.
Très bien.
Mais je fais un métier de cadre supérieur, quoi.
Ok.
Le truc que tu fais quand tu sors de 5 ans d'école d'ingénieur.
Ok. Alors moi, je suis pas du tout ingénieur.
D'accord.
Sans tirer ma question. Qu'est-ce qu'être ingénieur en colorimétrie ?
Je m'occupe en fait de gérer la couleur sur deux grosses machines à étiquettes. Tu vois, genre, c'est des imprimantes.
Ouais.
Tu vois, par exemple, le Coca-Cola.
Ouais.
On peut avoir le rouge Coca-Cola, quoi.
Ok, en fait, on travaille pour des marques.
Ouais, c'est ça. On va travailler pour des gens qui travaillent pour des marques qui ont besoin d'avoir les bonnes couleurs.
D'accord. Donc, quand j'imprime un document et que je suis dégoûté parce que le rouge sur l'écran n'est pas le même sur le papier, il faut que ça pèse.
Alors, oui, exactement, mais c'est normal que le rouge sur ton écran ne soit pas le même que le rouge sur ton papier.
Très bien. T'es à Paris depuis longtemps ?
Ça fait 6 ans.
Ok, et t'es né où ?
Je suis né à Toulouse, dans le sud de la France. Après, j'ai fait quelques études à Grenoble, donc dans le centre. Et après, je suis venu à Paris pour le boulot.
Dans tous ces différents lieux, la culture queer, dans sa globalité, puis la culture drag, elle est venue à toi ou t'as été la chercher ? C'est arrivé comment ?
Je sais plus si... Elle est plutôt venue à moi, je dirais, mais il y a assez récemment, c'est quand j'étais à Paris. C'est-à-dire
okay.
que quand j'étais à Toulouse ou à Grenoble, donc là où j'ai fait mes études, je traînais pas du tout dans le milieu queer,
ouais.
encore moins dans le milieu drag, et je traînais plutôt dans le milieu gay.
D'accord.
Standard, tu vois, je me suis assumé en tant que mec cis homo quand j'avais 13-14 ans.
Ouais.
J'ai commencé à fréquenter des bars homo, des gens gays.
Relativement jeune, du coup.
Voilà, plutôt relativement jeune. J'étais dans un lycée à Toulouse qui était très ouvert, donc c'était
ouais.
cool. Je pouvais m'exprimer un petit peu comme je voulais, mais je connaissais pas du tout le milieu queer, tu vois, je restais vraiment dans le milieu gay et très baba cool à l'époque. Genre, je portais des athébas, je faisais des bolasses,
des
trucs comme ça. Après, je suis allé en école d'ingénieur, où là, du coup, j'étais dans un milieu totalement hétéronormé et où j'avais très peu de connaissances homo et qui était donc vraiment dans le côté homo, yag, qu'on
ouais.
connaît de nos jours, très folophobe, très masque for masque, tout ça. Et c'est qu'en arrivant à Paris, au bout de 2 ans à Paris, que j'ai commencé à découvrir qu'il existait autre chose via des soirées. Genre, ah tiens, une soirée gay, c'est comment, la House of Moda, ah cool, ok, qu'est-ce que c'est. Et ou des spectacles de drag queen tels que les paillettes
ouais.
à l'époque, la troupe des paillettes. Mais donc, c'est arrivé quand même assez tardivement
dans
mon parcours.
Et du coup, c'est intéressant parce que tu as parlé du coup de tes études d'ingénieur. J'imagine que ta perception sur le monde professionnel et des études avec un tel poste ou dans ce secteur doit être intéressante en tant que personne queer. Ça a toujours été simple ou c'était compliqué ?
Je pense que c'est voué à être compliqué tant que le milieu entier et les études et tout ça, ça ne change pas. Quand tu vas en école d'ingénieur, c'est quand même que tu as eu des bonnes notes, que tu as été fort à l'école.
Mmh.
Et donc, ça va écrémer quand même toute une partie de la population qui n'ont pas idée que ces personnes peuvent accéder à des études supérieures. Moi, je suis blanc, je viens d'un milieu entièrement blanc, où même si mes parents étaient totalement ouvriers et chômeurs, tu vois, genre, j'étais bon à l'école dès que j'étais gamin. Moi, je voulais pas faire une école d'ingénieur, mais on m'a dit, si, tu feras ingénieur. Tu vois, genre, il faut que vous soyez l'élite. Tu vas faire S parce qu'il faut que vous soyez l'élite. Il faut gna 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 gna. Donc, quand tu veux faire partie de l'élite, donc de la norme, bah, tu vas faire partie de la norme blanche hétéro.
Ouais.
Tu vois, il y avait, dans toutes mes études, il y avait, mais je suis en train de me demander s'il y avait même, s'il y avait peut-être 2-3 personnes racisées dans nos, dans nos promos, quoi.
Ouais.
On venait, et moi, j'étais le seul, déjà, moi, j'étais une minorité parce que, bon, déjà, j'étais PD. Et en plus, je venais d'un milieu plutôt ouvrier, sinon, c'était que des enfants de médecins, d'ingénieurs déjà, d'avocats, etc. Quand t'arrives là-dedans, heureusement que moi je m'étais assumé déjà depuis 5-6 ans, et donc tous les trucs de genre « Ah, tiens, tu peux me servir à boire, mais me sers pas un verre de PD » ou des trucs comme ça, non, enfin, je m'en foutais quoi. J'étais en mode « Ah 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 » et je passe à autre chose.
Mais il y avait quand même ça.
Oh non, mais c'est tout le temps quoi, c'est vraiment tout le temps. Et d'ailleurs, pendant que je faisais mes études à Grenoble, pour essayer d'échapper un petit peu à ce marasme très... toute cette homophobie continuelle, jamais... enfin, elle était méchante, mais jamais, elle n'a jamais été violente, elle n'a jamais été physique, c'est toujours que du moral.
Tu as ressenti l'homophobie systémique, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est full homophobie systémique, jamais actée par des actes homophobes.
Mais
c'est systémique,
quoi.
C'est totalement inconscient et c'est totalement là, parce que tous mes potes, de l'époque, accepter que je sois gay en soi.
Bien sûr.
Mais tout le monde, ils n'empêchaient qu'ils étaient totalement homophobes, quoi. C'était l'exemple typique du je suis pas homophobe, j'ai un ami PD. Ben, si, en fait, si.
Ok, on en connaît tous.
Exactement, voilà, c'est ça.
D'accord. Du coup, donc, à Paris, tu rencontres un peu la culture queer, la culture drag. Qu'est-ce qui t'intéresse à l'époque là-dedans ?
M'évader un petit peu, parce que j'arrive à Paris, je connaissais personne. Il n'y avait aucun de mes potes qui m'avait suivi à l'époque, donc je débarquais un petit peu tout seul. Et du coup, il fallait que je commence à sortir, donc je commençais à sortir à la Java, je ne sais même plus pour quelle soirée c'était. C'était pas pour une moda, c'était pour une... je sais, aucune idée.
D'accord.
Je commence à sortir, à rencontrer des gens, j'essaie d'aller plutôt dans des soirées gays, et puis là, je commence à rencontrer des mecs, je commence à sortir avec des mecs.
C'était nouveau ?
Ouais, non, j'avais déjà eu plein de relations avant. À nouveau, je m'étais assumé très tôt et dans tous les sens du terme.
Ouais.
J'ai eu cette chance-là de pouvoir le faire. Mais bon, à Paris, ben, je me suis dit, comment est-ce que je vais découvrir des gens? J'ai fait du milieu associatif et rencontrer des mecs pour me faire...
Ce qui est déjà pas mal.
C'est ça, pour commencer à rentrer dans le milieu gay. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Il y avait un petit... je sais pas, ça a commencé à me lasser. Puis en même temps, t'as le milieu queer qui arrivait vers moi, comme je te disais, avec des événements que je voyais passer qui avaient l'air un peu plus
les paillettes,
les paillettes, des soirées au Sofmoda, genre waouh, des soirées lookées, j'étais en mode ok, c'est un anniversaire, enfin, c'est comme des soirées d'anniversaire où t'es looké, je sais pas quoi. Pas du tout, mais c'est tout ce moment là où c'est arrivé, où je me suis dit ah tiens, ça peut être cool, et où j'ai navigué un peu moins dans le milieu gay, un peu plus dans le milieu queer, sans comprendre à l'époque qu'il y avait une différence.
Mais d'ailleurs, au-delà de ta rencontre avec le milieu queer, je pense que c'est une rencontre pour tout le monde, dans le sens où il n'y avait pas tant de soirées queer que ça à l'époque.
Bah, très, très clairement, et puis en plus, venant de Grenoble ou de Toulouse,
enfin,
Grenoble, c'était zéro niette. À Toulouse, il y en avait quelques-uns, mais je suis parti de Toulouse quand j'avais 19 ans, donc je sortais, mais pas non plus des masses. Et puis ouais, effectivement, ça n'existait pas beaucoup. Alors, c'était tellement pas du tout mainstream, tellement underground, que... En fait, il n'y avait aucune publicité qui était faite. En fait, tu vois, aucune... Tu n'avais pas d'événement Facebook, c'était que peut-être au bouche à oreille que ça se faisait. Tu avais des squats transpédégouines, il y en a eu toujours qui faisaient des soirées et des collectifs et tout ça, mais c'est juste que ça se transmet du bouche à l'oreille. Tu ne connais pas sinon.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que donc, là, tu as évoqué brièvement la popularisation des dragues, ou en tout cas du queer, et on va un peu parler de cette perception... de la culture drag ou alors justement le terme culture, c'est peut-être celui qui pose le plus de problèmes, en tout cas la perception qu'ont les gens des drag queens. Je sais pas s'ils se rendent tous compte de la culture qu'il y a derrière, et c'est ce qui peut d'ailleurs interroger. J'ai l'impression que tout le monde voit ça à la fois positivement, mais on perçoit un peu les limites. J'ai lu que tu avais dit au magazine Antidote, dès que la culture drag va devenir mainstream, elle va se dépolitiser. C'est déjà arrivé aux États-Unis, une édition de RuPaul version UK est prévue. Il y a une énorme levée de bouclier de la part des queens anglaises qui ont la particularité d'être très politisées. Il y a une visibilité accrue, mais qui reste finalement en surface. On passe du « pourquoi tu fais du drag » à « tu marches trop bien en talons ». Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois vraiment aujourd'hui, même ici en France et à Paris, depuis ton évolution ?
C'est vraiment là. là, cette interview que j'ai fait, c'était il y a quoi, il y a même pas un an.
Ouais.
C'est encore plus présent. Depuis cette époque où j'ai fait des interviews, j'ai eu des propositions de booking de gens qui, en fait, s'en foutent de ce qu'il y a derrière le drag. C'est juste, on veut un personnage exubérant. Ouais. Bah, avant, je vais peut-être caricaturer un peu trop, mais avant, tu veux prendre un clown ou un magicien, bah maintenant tu vas prendre une drague.
Ouais.
Tu vois, c'est. Tu veux le côté
l'attraction
exubérant.
L'attraction cool en soirée.
Exactement, c'est l'attraction cool en soirée. Fun, c'est nouveau, c'est pas trop cher. En tout cas, les gens essaient que ce soit pas trop cher.
Non, c'est ce qu'ils disent en fait, je veux dire, ouais, ces organisateurs-là.
C'est ça. C'est pas trop cher, c'est nouveau, on en entend parler. On est demandé pour faire de tout et de n'importe quoi maintenant, quoi. Ça montre bien que ça se popularise, ça devient de plus en plus mainstream. Et quand quelque chose devient mainstream, ça perd forcément son côté politique.
Alors, on va reparler un peu de l'aspect politique tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore évoqué le nom de Mini Majesté, donc il serait peut-être temps.
Mais qui est-ce ?
Qui est-elle ? C'est son nom de drag queen.
Tout à fait.
Mini Majesté.
Mini Majesté.
Ça fait combien de temps maintenant que Minima existe ?
Ça va faire bientôt 4 ans. Déjà, je suis né, enfin Minima est née le 21 septembre 2015.
Ok.
Je rappelle très précisément parce que c'était pour une soirée qui s'appelle La Garçon Sauvage à Lyon.
D'accord.
Et c'est là où Minima est sortie la première fois, où Arthur est sorti la première fois en Minima.
Donc c'était à Lyon.
C'était à Lyon, effectivement, parce que à l'époque je bossais à moitié là-bas, enfin j'avais un poste basé à Paris, mais les bureaux étaient à Lyon, bref. Donc je faisais beaucoup d'allers-retours et j'avais rencontré ma drague Mother.
D'accord.
Ma maman drague, type Sister V, cœur. Elle était un petit peu en post-drague, elle avait envie de recommencer, moi j'avais envie de me lancer. À ce moment-là, j'étais à Lyon, on avait beaucoup entendu parler des garçons sauvages, des soirées garçons sauvages, donc soirées queer lyonnaises. On s'est dit que c'était le bon moment pour me lancer, et boum, Minima est née le 21 septembre 2015, donc à Lyon, avant de faire ses premiers pas à Paris le mois d'après, je crois.
Donc du coup, avant cette soirée-là, tu pensais déjà ?
J'y pensais déjà parce que j'avais entendu le nom de drag queen déjà, alors que 4 ans avant, tu m'aurais demandé ça en 2010, une drag queen, aucune idée de ce que c'est, quoi. Donc du coup, j'avais entendu le nom de drag queen, je regardais RuPaul's Drag Race en téléchargeant sur des sites en infestant mon ordinateur de virus, et j'avais vu les paillettes, donc ils m'avaient montré que c'était faisable, genre ça existe. Et j'avais entendu parler d'House of Moda. Et donc ça m'intéressait un petit peu, j'étais un petit peu titillé, surtout par le côté théâtral en fait. Moi j'ai fait pas mal de théâtre quand j'étais plus jeune, enfin pas mal. J'étais inscrit à des clubs de théâtre quand j'étais gamin, quoi. Ça m'avait vachement aidé dans ma vie où j'étais avant très très timide.
D'accord.
Le théâtre m'avait aidé à sortir un petit peu de cette coquille. Et donc moi c'est ce côté-là que je voyais parmi les drags, quand je voyais ce que faisaient les paillettes, c'était une petite pièce de théâtre en fait qu'elles faisaient au final. Très politique, etc. Mais une pièce de théâtre. Et je m'étais dit, ah tiens, ce serait pas mal de me lancer dans le drag pour essayer de retrouver ce côté-là et en plus finir de m'insérer dans le milieu queer. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à vadrouiller un petit peu là-dedans. Et en plus, pile à ce moment-là, c'était vraiment genre, tout s'est bien passé, tout s'est aligné pour que je me lance dans le drag. J'ai rencontré ma drag mother, type Sister V, à la terrasse du Rosa Bonheur, un bar dans Paris. Comme ça, le temps d'un soir, on a commencé à discuter de ça.
Ok.
Et voilà, elle m'a dit que ça serait pas mal que je me lance. En plus, j'étais en pleine peine de cœur et j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Donc, elle m'a dit que ça serait le bon truc pour au moins m'occuper l'esprit.
La bonne occasion.
Exactement.
Je demande toujours à mes invités ce que le drag leur a apporté. Tu parles de confiance en soi notamment. J'imagine que toi, t'as évolué aussi grâce à ce personnage de Mini Majesté. Est-ce que tu peux m'en parler un peu ?
Bien sûr. Mini Majesté a beaucoup apporté à Arthur et Arthur a beaucoup apporté à Mini Majesté. Au début, j'avais vraiment créé un personnage, Mini Majesté, je changeais ma voix. C'était vraiment un personnage totalement différent. Après cette. Je sais pas si le terme est bon, cette dichotomie, mais cette différence, c'était trop important. Je savais plus si j'étais en Minima, si j'étais en Arthur. Pourquoi est-ce que cette partie de moi était Minima ? Enfin, c'était trop bizarre. Du coup, maintenant, j'ai totalement cassé les barrières et Minima est devenue juste une extension d'Arthur. Donc, du coup, Minima a beaucoup aidé Arthur et Arthur aide beaucoup Minima. Ça va dans les deux sens, dans les trucs aussi bêtes que. Là, je me balade toujours avec un éventail parce que j'ai chaud. C'est plutôt un attribut féminin. Avant Minima, je pense que je ne me serais pas baladé en éventail dans le métro. C'est tout bête. Hein.
Ouais.
Mais c'est des. Casser un petit peu les barrières petit à petit, poum, poum.
Ouais.
Normalement, 9 mois sur 12, j'ai les cheveux roses, fluo. Les 3 autres mois, c'est parce qu'il faut que je les laisse reposer parce qu'ils sont, ils sont dead. Donc 9 mois sur 12, j'ai les cheveux roses, parce que j'adore ça. Je ne l'aurais jamais fait avant minima.
Ok.
Plein de petits trucs comme ça, il reste encore une longue route à parcourir pour finir de me déconstruire et déconstruire les normes mec qu'on m'a imposées. Mais c'est quand même, ça m'a un petit peu aidé. Et puis, minima, c'est quand même nourri de tout le passé théâtral et la confiance en soi qu'avait déjà Arthur pour se construire aussi. Donc, il y a vraiment un échange non-stop.
Et du coup, tu penses que la construction, la déconstruction, c'est un apprentissage permanent?
Si tu te rends compte que t'as fini, c'est que c'est bizarre, parce que ça veut dire que t'as tellement de recul sur toi-même. Je pense que la déconstruction de soi est permanente, il faut que ça se continue. Quand j'étais folophobe, je m'en rendais pas compte, j'avais pas idée de ça. Et pourtant, je l'étais. Et petit à petit...
Mais t'as pris longtemps à conscientiser ça?
Ouais, je me suis rendu compte de ça, je sais pas, allez... Minima devait naître, donc c'était il y a 4 ans, même pas par là, que j'ai pris du recul sur comment je me comportais avec les autres homos, avec moi-même. Je continue encore des trucs tout bêtes. Là, assez récemment, il n'y a même pas un an, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que beaucoup de dragues ou de mecs gays, surtout cisgenres, aimaient bien se parler de haut féminin, mais surtout pour les adjectifs négatifs. Genre, je suis conne, je suis vraiment idiote.
C'est vrai.
À la base, moi, je me disais, bah oui, fuck le genre, j'utilise le masculin, le féminin, on s'en fout. Et puis, en fait, si tu réfléchis un petit peu plus, la plupart du temps, en tout cas, moi, je l'utilisais beaucoup pour les termes négatifs. Les termes positifs, ah, je suis trop beau. Ça reste, je suis trop beau. Donc, bien sûr, que je suis sûr que j'espère que je vais continuer à me déconstruire dans les années à venir. Et c'est grâce à la communauté queer qu'on fait ça. Il appartient à nous, drague, de se mainstreamiser quand même, parce que comme tu le dis, ça montre à d'autres personnes, tu montres à notre public, mais il faut toujours rappeler des choses, quoi. Il faut toujours garder ses racines politiques. Alors bien sûr, tu peux faire quelques gigs, tu peux faire quelques bookings où c'est juste on te paye juste pour être là et pour être belle, vas-y, go, il faut qu'on se fasse de la thune là-dessus, mais il faut se garder des moments politiques. Il faut qu'on se force à le faire pour garder les racines du drag, en fait.
Et cette notion politique, tu arrives à la mettre en avant avec Minima?
Honnêtement, c'est compliqué. Il faut d'abord je sais pas quelle expression utiliser là, mais c'est compliqué parce que quand t'es en drag, donc quand t'as tout ton habit de drag, t'es tellement exubérant, c'est un énorme ego boost quand même. Hein. Faut pas se mentir. Quand les gens te regardent, t'es plus haut qu'eux. Ils sont tous émerveillés, tu te prends quasiment que des compliments, les seules critiques que tu vas te prendre, c'est par tes copines ou copains drag qui savent, qui voient les trucs, tout le monde est en mode genre « Ah ouais, t'es incroyable. » Donc c'est facile de se laisser glisser sur cette pente-là, et c'est dommage, il faut essayer de garder, ne serait-ce que quand tu fais des perfs, je sais pas, faire des perfs un petit peu politiques. Moi, à mon niveau, je sais que tous les ans, avec Enza Fragola, j'organise un événement qui s'appelle le Sidraction.
Tu peux nous en parler un peu?
Ouais, le Sidraction, en fait, tous les 1er décembre aux alentours, le week-end autour du 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida et les hépatites. Et on s'est, avec Enza Fragola, on s'est associé avec le Sidaction, donc une asso de lutte contre le VIH et les hépatites, pour aller récolter de la thune dans la rue. Et c'est Enza qui a eu l'idée au début, parce qu'à Amsterdam, ça fait une éternité qu'ils font ça, je crois une dizaine d'années, où ils vont récolter de l'argent dans les bars. En France, t'as pas trop le droit de récolter de l'argent dans les bars parce que ça s'appelle de je sais pas quoi et c'est interdit par la loi. D'accord. Donc on va juste dans la rue et on est une vingtaine de queer à se balader dans les rues du Marais tous les ans pour récolter de l'argent. Et puis après, on finit normalement en soirée quelque part. On organise une soirée pour finir de récolter de la thune et on a ramassé... combien on a ramassé cette année? Je sais plus, mais quasiment 5000 balles. C'est énorme, et tous les ans, ça prend de l'ampleur. On sait même pas comment on va gérer l'année prochaine. Mais ça va être encore mieux, c'est-à-dire qu'on a encore plus d'argent, qu'on rappelle les chiffres, qu'on rappelle que le VIH, même si tu peux vivre toute ta vie séropositif, il faut rappeler que si t'es indétectable, tu ne transmets pas le VIH, il faut se rappeler de se faire dépister, qu'il y a la syphilis, que, enfin, t'as encore plein de choses à réapprendre aux gens de la communauté et hors de la communauté.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, Vous utilisez aussi votre voix pour porter un message.
Il le faut. Il le faut. Il faut qu'on garde ça. On fait, pour beaucoup, on fait 2 mètres quand on est en talons. On a des perruques qui font 2 fois la taille de notre tête. C'est bête de juste utiliser ça pour être beau / belle. C'est très bien. Hein. Moi, je le fais aussi. Mais
pas que.
Ouais. Il faut se rappeler d'où on vient, pourquoi on fait ça et qu'on a une plateforme. Il faut l'utiliser.
Au niveau des dragues elles-mêmes, tu trouves que la démarche est moins politique qu'avant ?
Alors moi, je suis arrivé sur la scène drague à un moment charnière, genre 2 ans avant que RuPaul's Drag Race arrive sur Netflix. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est marqué d'une pierre blanche dans l'histoire drague en France, en tout cas. Il y a vraiment eu un avant ou après. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre assez conscience avant de ce qui se passait. Mais en tout cas, de nos jours, c'est de moins en moins politique et il y a plein de dragues qui font ça juste pour le côté beau et fun. Et bon, tant mieux, mais moi, ça me fait un petit pincement au cœur. C'est un petit peu dommage. Oui, t'es splendide, cette robe est splendide et t'es ultra fichy, tu ressembles à tu ressembles vraiment à une femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tant mieux pour toi, mais appelle-toi drague si tu veux. Moi, ça me fait un petit pincement au cœur. Ça me fait un petit pincement au cœur si tu fais pas un petit peu de militantisme, un petit peu de combat, parce que de base, normalement, casser les codes de genre, c'est déjà faire un combat, donc continue là-dedans.
Ouais.
Enfin, je fais pas ça pour te faire remarquer, être beau, être belle. Même si t'as toujours 1 ou 2 épisodes en RuPaul's Drag Race où ils essaient de repolitiser un petit peu ça, genre, je crois, si je me souviens bien, c'est la dernière saison où ils ont fait un musical sur Trump, il y a 2 saisons, enfin bref, des trucs sur le réchauffement climatique, les 50 ans de Stonewall, je ne sais plus s'ils ont fait ça. Enfin bref, ils essaient de repolitiser un petit peu. T'as quand même 80% du temps, toutes les queens qui sont là, déjà, c'est des mecs cisgenres, et ils sont ultra polished, et il faut qu'ils soient super beaux, super belles, et ils vont se faire shader sur leur maquillage, sur leur perruque, ou quoi que ce soit, et puis au final, tu les vois performer, tu les vois faire des lip-sync que s'ils ont perdu en fait, c'est très bizarre.
Oui, c'est vrai.
Donc, tu vois beaucoup, t'as un flow continu de ça, donc forcément, quand on te nourrit que de choses comme ça, tu vas tendance à aller dans le sens du courant.
Et tu penses que RuPaul's Drag Race, en fait, ça a un aspect positif ou plutôt négatif maintenant sur le drag?
Enfin, c'est vraiment les deux. Je me suis déjà vachement posé la question sur. Est-ce que ça fait du bien à la communauté de drag que RuPaul's Drag Race arrive sur Netflix ou soit plus populaire? Oui, ça fait du bien parce que ça permet à des gens maintenant vraiment d'en vivre, parce que ça apporte plus de booking. Enfin, genre, l'année dernière, j'ai animé deux conventions de tatouage, en drag. C'est absolument génial. J'étais ravi de le faire, je le referai avec plaisir, j'adore présenter des trucs.
T'aurais pas pensé ça?
Bien sûr que non, jamais de la vie. Donc, c'est une bonne chose, ça ramène des bookings à des gens, ça fait bouger les choses, et mine de rien, quand moi je suis sur scène devant des milliers de personnes et que je présente des tatouages, je vais peut-être faire réfléchir une ou deux personnes, donc ça sera déjà bien. Mais en contrepartie, des fois on me demande d'être là juste pour annoncer les plats pendant une soirée, enfin c'est vraiment très bizarre, et du coup t'enlèves tout le côté politique.
T'as vraiment ce genre de proposition?
Oui.
Que tu dois du coup refuser.
Que tu dis.
Sans trop de.
Non, ça va, merci. Ou alors, des fois, t'as des interviews. Vraiment, j'ai refusé des interviews pour des journaux de droite. Je te demande, mais vous avez rien compris au truc, quoi. C'est pas possible. Ou alors, une école de commerce qui, pour moi, est genre le summum du anti. Enfin, pas anti-queer, mais genre, c'est à l'opposé du queer, avec les écoles d'ingé aussi. On était vraiment à l'opposé du queer. Qui m'a envoyé un sondage, c'est la junior entreprise. Donc, c'est des gens en école de commerce qui font style, qui montent des entreprises pour aider d'autres entreprises, qui m'ont envoyé un questionnaire pour aider un client qui veut se lancer dans une société qui fabrique des perruques.
D'accord.
Et leur questionnaire, mais c'était terrible. Ils disaient genre, pour quelle occasion portez-vous des perruques? Pour la Gay Pride. Putain, mais on est en 2019, on dit plus Gay Pride, c'est plus possible, quoi. Enfin, l'invisibilisation, c'est un vrai sujet. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ça? Pour des défilés de voguing, mais qu'est-ce que c'est? Je sais qu'il parle de la scène ballroom, mais c'est pas les bons termes.
Ouais.
Vous vous définissez comme gay, bi, trans, drag queen. Mais, okay. Alors comment est-ce que je fais pour cocher plusieurs cases?
Et chacun sa choix multiple, quoi.
Ah ouais, et puis tu pouvais pas, évidemment. Donc, je leur envoie un message, genre, étudie un peu plus le sujet, quoi.
C'est intéressant le questionnement sur les termes, notamment, parce que c'est un vrai débat. Certains trouvent qu'on s'y attache trop. Et certains pensent, à l'inverse, qu'il faut d'abord savoir de quoi on parle, précisément, pour ensuite pouvoir élever le débat. T'en penses quoi, tout ça?
C'est très intéressant et je pense qu'on vit dans une société très clivée où il faut avoir un avis sur tout et il faut qu'il soit tranché. Et ça se voit encore plus parce que la plus grande plateforme de drame et de conflit, c'est Twitter. Twitter, bon, maintenant on passe à 280 caractères, mais avant on était à 140 caractères. C'est-à-dire que tu as 140 caractères, c'est moins qu'un texto de l'époque. Pour écrire ce que tu veux dire. Donc, il faut que tu sois clivé et que tu utilises les bons mots. Donc, les mots ont vraiment un sens. Je serais plutôt tendance à dire qu'on s'en fout des mots. Dans mon monde idéal, on n'a plus à se définir, à se mettre dans des cases. Dans la réalité, dans la société dans laquelle on vit, on a besoin d'utiliser les bons mots parce que les mots ont du sens et ont du poids.
Ce que j'aime beaucoup, moi, dans ton personnage, je peux parler de personnage, hein, tu m'arrêtes.
J'utilise le mot persona, si on est dans les mots, mais c'est pas grave, non.
Ce que j'aime, c'est que je le trouve assez juste, ce personnage. Je trouve Mima assez juste, c'est-à-dire que ton projet, ton art me semble engagé, il me semble assez ancré dans les réalités politiques et sociétales, mais en même temps, t'as un truc hyper positif dans ton drag. C'est-à-dire que tu as une présence, tu joues sur le côté joyeux, presque ludique. Et est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que c'est voulu? Tu cherches à faire ça?
Déjà, merci. Parce que je trouve que tu as assez bien défini Minima. Et à la base, c'est pas vraiment choisi, voulu d'apporter du bonheur. Mais c'est juste que être en Minima m'apporte, moi, Arthur, du bonheur. Donc c'est juste que je le retranscris. C'est vraiment tout bête, mais moi, tous les dimanches, j'anime un bingo drag.
On va y venir.
Genre, c'est littéralement passé 3 heures à annoncer des numéros. Et j'adore faire ça, quoi. Et j'adore juste dire le 23 et trouver un truc à dire. Et puis, tous les X numéros, faire repasser un petit message de prévention. Mais dans la bonne humeur, quoi. Enfin, on est là pour être fun quand même, quoi. Après, pendant des performances, tu peux apporter un message beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, beaucoup plus noir. Mais moi, je vois pour moi, le drag, il faut qu'il. Pour mon drag, en tout cas, Minima. Se doit d'être joyeuse. Parce qu'il y a assez de choses horribles qui nous arrivent à la communauté LGBTQ, qui arrivent dans le monde en général, pour qu'on soit trop dark. Moi, c'est pas mon côté. Je verrai toujours le verre à moitié plein. Sauf pour le destin de la Terre, où ça sera catastrophique d'ici 100 ans. Mais bon, tant qu'à faire, autant en profiter.
C'est certain. Du coup, on va parler du bingo drag. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette soirée?
Alors cette soirée, donc la Fédération Française du Bingo Drag Apéro, de son petit nom, FFBDA, se déroule tous les dimanches dans un bar qui s'appelle À la Folie, qui est dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement à Paris. Et c'est la parfaite occasion pour se retrouver entre potes et passer un dimanche tranquille où tu vas débriefer ton week-end, où tu vas te préparer à ton lundi si tu bosses ou à ton lundi si tu bosses pas, peu importe, tout en buvant une bière, un spritz, un pastis, peu importe, et en écoutant... deux dragues énumérer des numéros entre le 1 et le 90 et gagner des lots débiles comme qu'est-ce qu'on avait gagné de débile la dernière fois? Ah oui, c'était une guirlande de l'âge de glace. Ouais.
On adore.
Pourquoi pas, c'est ça, exactement. Alors cette soirée, en fait, elle existait avant moi.
Ouais.
Les bingo dragues de base, de toute façon, c'est quelque chose de standard dans la communauté drague, de la même façon que les brunchs, les lip-sync et bon, les animations en soirée. Le bingo drag, c'est assez standard, mais plutôt aux États-Unis. Et ça existait déjà avec un autre collectif qui le faisait déjà à la Folie.
D'accord.
Il y a 4-5 ans. Ça s'est arrêté, à la Folie a arrêté de travailler avec ce collectif, mais il y a une personne de la Folie, Audrey Saint-Pé, qui trouvait ça vraiment cool. Et moi, j'avais remplacé des gens déjà pour le faire une fois. Elle avait bien aimé ce que j'avais fait, moi j'avais adoré le faire. Et ça va faire 2 ans maintenant, ouais, bien 2 ans, qu'on le fait de manière assez répétée. Et ça fait, je ne sais plus combien de temps, j'ai essayé de trouver, mais je ne sais plus. Mais au moins 1 an qu'on le fait tous les dimanches.
C'est toujours un plaisir?
On va être honnête, non. Des fois, quand je suis sorti la veille, j'ai plus 21 ans et donc c'est dur. C'est très bien de se maquiller. des fois j'ai juste pas envie quoi. Mais bon, même si j'ai juste pas envie, quand je serre mon corset, que je mets mes talons, j'arrive toujours quand même à trouver de l'énergie parce que les gens sont là pour toi, donc j'essaie de me dire que c'est quand même mon deuxième travail et que bah, il faut que tu fasses ton boulot, donc des fois je dirais pas que je fake un petit peu, si des fois je fake un petit peu la bonne humeur que j'ai, ouais. Même si 80% du temps, 90% du temps elle est totalement réelle et je suis vraiment ravi d'être là. Forcément sur 52 dimanches dans l'année, il va y en avoir 5 ou 6 où je suis pas trop dans le mood quoi.
Ouais.
Mais bon, ça me paraît logique.
Tous ceux qui passent à Paris les dimanches, je conseille d'aller au Bingo Drag.
C'est gratuit.
C'est gratuit.
Et c'est ouvert à toutes les personnes qui arrivent à ouvrir une porte.
Voilà. Donc ça devrait aller.
C'est ça. Et de toute façon, si vous n'arrivez pas à ouvrir une porte,
quelqu'un l'ouvrira pour vous.
Exactement. Il y a toujours quelqu'un pour le faire pour vous.
Donc ça, c'est cool. Mais effectivement, j'en ai fait un et c'était un super souvenir. D'ailleurs, c'était ma première fois et un ami à moi est parti. Et j'ai fait cette erreur de garder sa grille.
Oh mon dieu, je me rappelle pas. Oh,
et Mini Majesté m'a mis un coup sur la tête. Mais je l'ai très bien vécu. Ça m'apprendra pour la prochaine fois quand je reviendrai.
Bon, on trouve. J'essaie toujours en plus de trouver. Je force. J'essaie toujours de trouver des tricheurs ou des tricheuses.
Alors, je n'ai pas triché dans mon plein gris, je n'avais pas connaissance de la règle. Hein.
100% des personnes disent ça. Et je shame 100% des personnes. Et fun fact, c'est quand même très drôle parce que là, maintenant, ma fille drague, avec qui j'anime pas mal les bingos, elle s'est faite booker pour animer un bingo privé. Et donc, maintenant, quand on trouve des tricheurs et des tricheuses, même si à chaque fois ils ne le savaient pas, mais bon, on crie toujours shame, 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 comme dans Game of Thrones. Quand Cersei se fait shamer dans la rue. Et là, donc là, ma fille était bookée à un bingo privé. Et la personne qui l'a bookée lui a vraiment demandé, genre, est-ce qu'on peut shamer les gens? Est-ce qu'on peut shamer les gens? Il leur a dit,
oh, wow.
Mais il y a personne qui triche. Oui, mais quand même, c'est drôle.
Du coup, tous les dimanches à la folie, et avec toi, il y a une drag queen. Différente chaque dimanche.
Ça.
C'est toi qui l'ai choisie?
C'est moi qui l'ai choisie. Alors, je l'ai choisie comment? En fait, c'est parce que j'aime bien bosser avec elle. De temps en temps, je renouvelle un petit peu, mais j'ai un pot dans lequel je pioche, les pauvres, je les adore. Mais en fait, vu qu'on passe 3 heures à juste énumérer des numéros ensemble, et donc à discuter ensemble et à être en relation ensemble, il faut que ce soit des gens avec qui je m'entende bien, que je connaisse, que je comprenne, qu'ils me comprennent. Parce que des fois, il va manquer un truc et je suis en train de parler, il faut qu'avec des gestes ou mes yeux, l'autre personne comprenne que merde, il manque des trucs là, cette table.
C'est un réel duo.
C'est vraiment un réel duo.
Il faut se renvoyer la balle aussi.
Exactement. Il faut arriver à se renvoyer la balle. Il faut arriver à chambrer l'autre, à se laisser chambrer. Et donc maintenant, j'ai vraiment un noyau dur de personnes avec qui je sais. En fait, je sais faire des bingos avec ces personnes, quoi. Et de temps en temps, je rajoute des nouvelles personnes. Là, par exemple, j'ai invité Étoile de Merde il n'y a pas très longtemps. Je vais le réinviter là parce que c'est très bien passé. Et de temps en temps, voilà, je repropose à des nouvelles personnes de venir le faire. Et d'ailleurs, si des drag queens, des drag queers, des drag kings, des drags, peu importe, ont envie de tester et m'écoutent, là, n'hésitez pas à venir me le dire directement. C'est rarement moi qui viendrai vous chercher parce que si c'est pas vous qui manifestez l'envie, c'est déjà pas bon.
Osez aller voir Minima.
C'est ça.
C'est le message. Et du coup, c'est intéressant. Du coup, est-ce que tu sais que, par exemple, il y a des amis à toi qui sont drag et avec qui tu sais que par exemple un bingo ça marcherait pas avec toi parce que c'est compliqué, parce que vous avez pas la même approche, le même
non,
type de drag?
Toutes les personnes avec qui je suis proche en drag, je les ai invitées au moins une fois. En fait, on se connaît en drag, on s'entend bien en drag, et le bingo c'est pas une performance, enfin c'est une performance, mais c'est nous. C'est notre amitié qui est dedans, qui est vraie, et donc il n'y a rien à faker, il y a juste à profiter de la relation qu'on a en dehors du bingo. Donc tous mes potes sont déjà passés par la case bingo.
Les drags, cet univers, les drag queens, etc., tu vois ça comme un esprit de famille?
Alors il y a un esprit de famille, de soutien dans la communauté drag, qui est moins important qu'avant, car il est moins vital. Avant, dans les house des années 70-80, dans les milieux afro-américains, donc des États-Unis, et gays, il y avait vraiment ce besoin de soutien, parce que littéralement, les gens étaient à la rue. De nos jours, la majorité des drags que je connaisse ont une situation plus ou moins stable. Avec, t'as tout un éventail de stabilité, mais bon, tout le monde est à peu près stable et a moins besoin de ce cadre-là, de cette maison-là. Donc, il y a toujours cet esprit de communauté moins vital. Il est quand même là parce qu'on est quand même plus discriminé que d'autres. Mais bon, il y a, comme dans toute communauté, des fights, des entraides. Au sein de cette communauté, je pense, j'espère que je ne suis pas trop utopique en disant ça, que si jamais on se fait attaquer de l'extérieur, toutes les barrières de fight, de drama, de thé qu'il y a pu avoir entre nous vont s'effacer, parce qu'au final, il faut qu'on soit une seule unité, quoi. Mmh. Il faut qu'on soit vraiment là pour soutenir les unes les autres envers le monde extérieur. Qu'on se batte, qu'on se fight les unes les autres entre nous. C'est normal, c'est comme ça que le monde marche. Mmh. Puis en plus, on est drague, donc on a forcément quasiment toutes et tous un ego un peu plus surdimensionné, parce qu'on est surdimensionné. Donc forcément, on va peut-être plus se fighter que la moyenne, mais j'espère que cet esprit de communauté est vraiment là si jamais on se fait vraiment attaquer de l'extérieur. Et je pense qu'il l'a, parce qu'à chaque fois qu'il y a une copine ou un copain drague qui sort une interview, qui va être dans un média mainstream, je pense des fois où Shenara Tanjabi, Shetan, avait sorti une vidéo pour, merde, je sais plus quoi, où elle expliquait le drag, blablabla, elle s'était pris mais des commentaires catastrophiques, mais forcément, enfin, des trolls sur Facebook, et peu importe qui avait déjà eu du shade avec elle ou quoi que ce soit, on était toutes et tous allés répondre aux commentaires ou apporter du soutien ou quoi que ce soit. Donc je pense que cette esprit de communauté est quand même
présent.
Ouais.
Et on arrive à la fin. Tu poses toujours la même question, est-ce que tu aurais un conseil pour celles et ceux qui aimeraient devenir faire du drag, drag queen, drag queer, peu importe, mais qui hésitent, qui savent pas comment s'y prendre?
Comment s'y prendre, c'est en faisant des erreurs, beaucoup d'erreurs. Moi, j'aime bien garder sur mon Instagram les photos de mes premières sorties en drag qui sont vraiment pas là. Enfin, qui sont là, mais du coup, c'était vraiment pas trop ça. En tout cas, c'est pas le niveau auquel, même à l'époque, j'aspirais. Donc, il faut pas hésiter à sortir. Je dis ça, il ne faut pas hésiter à sortir dans le sens où il ne faut pas hésiter à aller rencontrer les autres personnes. À nouveau, il y a de plus en plus de drague dans Paris. Si tu veux en faire quelque chose, il faut que tu ailles voir les gens. Je pense que 80% d'entre nous, on est assez gentils pour au moins discuter avec toi et te donner des conseils. Et viens soutenir tes dragues locales, viens voir les shows, viens en club, soit là au Sofmoda, à la Kindergarten, c'est là où tu rencontreras le plus de personnes. Fais ça pour être beau, pour être belle, pour te sentir libérée, enfin beau, belle dans tous les sens du terme, que ce soit physiquement, mais intérieurement, pour te sentir libérée. Moi, le drag minima a aidé beaucoup Arthur à se libérer, donc je ne peux souhaiter que ça à toi aussi, que ça t'aide à reprendre une bouffée d'air, une grande bouffée d'air. Oublie pas que le drag est de nature politique, mais fais ça pour t'éclater. Il faut que tu t'éclates en club, en allant rencontrer des personnes, et que le drag soit là pour t'apporter une bouffée d'air qui soit un petit peu politique.
Merci Arthur.
Avec plaisir Arthur.
Flamboyante est un podcast animé par moi-même, Arthur Lefebvre, et produit par Mauvaise Fête. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les précédents et aussi laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Intense passion.